VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le Nigeria s'enfonce dans la crise économique avec une contraction de son PIB, le produit intérieur brut, de 2,24% au troisième trimestre par rapport à 2015 selon les chiffres du Bureau national des statistiques publiés aujourd'hui. Géant du continent africain, le Nigeria souffre notamment de la chute du prix du baril et d'attaques récurrentes de ses installations pétrolières par des groupes rebelles, entraînant une perte de revenus pour l'État, une forte inflation, 18%, et une pénurie de devises étrangères. Les élections municipales organisées ce dimanche au Mali ont été émaillées d'incidents et d'appels au boycott dans le Nord, théâtre du soulèvement Touareg qui a permis aux mouvements islamistes locaux de s'emparer de la région en 2012. Le scrutin a été annulé dans 7 districts par mesure de sécurité. L'opposition et les groupes armés engagés dans le processus de paix qui se déroule sous l'égide de l'ONU jugent en outre la situation toujours trop instable pour qu'il ait lieu dans de bonnes conditions. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
Pour la communale de 2016 au Mali, le sang a coulé. Il y a eu au moins 4 morts et une personne portée disparue. La tête de liste de l'ADEMA de Nara, traumatisée par des bandits armés, est décédée sous le coup de la paire. À Douanza, des hommes armés ont tué un candidat PSP, tout comme l'ami d'un député de l'URD dans la même localité. Des bandits sur moto ont ouvert le feu sur les participants d'une réunion qui se trouvait chez le maire de Djangourou, dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cette attaque a occasionné la mort d'un jeune homme par balle. Deux autres personnes ont été blessées. À la veille du scrutin, le 19 novembre 2016, dans la commune de Djungani, région de Mopti, toujours dans le même cercle de Koro, la tête de liste du parti PRVM a été enlevée vers 6h du matin. Saïdou Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sa voiture a été retrouvée brûlée par des hommes armés qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Toute la journée électorale du 20 novembre a été émaillée de coups de feu dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Conséquence, le vote n'a pu se dérouler dans une vingtaine de communes où des hommes armés ont brûlé les matériels électoraux, menacé des candidats et des organisateurs du scrutin. À Kidal, où le vote n'était même pas prévu, il y a eu une manifestation au cours de laquelle ils ont brûlé le drapeau du Mali pour dire non à l'organisation de la communale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, une épidémie de dengue sévit actuellement dans le pays où le nombre de décès se chiffre à 15 selon un bilan du ministère de la Santé. Et comme les signes de la dengue ressemblent à ceux du paludisme qui est endémique au Faso, les victimes de la dengue ont tendance à penser d'abord au palu. Docteur Brice Bikaba est le responsable national de la lutte.
En date du 13, nous avions 1266 cas de suspects qui avaient été notifiés, et dont 1061 cas probables qui ont été donc confirmés par les tests de diagnostic rapide. Et nous avions notifié 15 décès au total. Il n'y a pas de palu dengue. La dengue a une symptomatologie qui ressemble beaucoup à celle du paludisme. Et c'est certainement donc la similitude des signes qui fait que les gens le confondent à la dengue, mais ce n'est pas la même maladie. La dengue est transmise effectivement aussi par un moustique, mais elle est causée par un virus, ce qui n'est pas le cas pour le paludisme, qui est également transmis par un moustique, mais qui est causé par un parasite. Le moustique qui cause le paludisme est différent, c'est l'anophèle, il est différent de celui donc de la dengue, qui est donc l'Aedes, qui se nourrit surtout le jour, alors que l'anophèle se nourrit surtout la nuit.
Docteur Brice Bikaba.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Direction maintenant le Togo, inciter les jeunes Togolais à postuler aux différents programmes d'échange américains et réveiller en eux la flamme de l'engagement citoyen. Ce sont là les objectifs poursuivis par le Global Alumni Association of Togo, le GAAT, en initiant la semaine du GAAT. Reportage de notre correspondante dans la capitale togolaise, Kayi Lawson.
Du 14 au 19 novembre s'est tenue la semaine du GAAT des Global Alumni Association of Togo. Les anciens bénéficiaires des programmes et bourses américains ont voulu mettre en application les notions d'engagement citoyen apprises lors de leur séjour aux États-Unis. Pour ce faire, le GATS a offert une bibliothèque à la brigade pour mineurs de Lomé. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.
Nous connaissons un peu l'intérêt d'une bibliothèque. Avec une bibliothèque, on s'éduque. Avec une bibliothèque, on apprend de bonnes choses. On arrive à voir ce qui se passe ailleurs que dans son milieu. C'est très important pour les mineurs de pouvoir s'éduquer à travers les livres.
À l'agenda de cette semaine du GATS, une formation sur le leadership et l'entrepreneuriat couplée d'un Youth Tech Camp. Nous écoutons ses participants.
Il faut être capable de conduire un groupe, il faut être un leader pour un groupe, il faut être capable d'influencer l'environnement dans lequel nous vivons. C'est ce que moi j'ai pu retenir sur le leadership.
On a parlé également de la e-reputation, c'est-à-dire comment avoir une bonne réputation sur le web, sur Internet, et aussi avoir une très bonne sécurité.
La représentation des États-Unis au Togo a saisi l'occasion pour inciter les jeunes Togolais à soumissionner aux différents programmes et bourses. Mike Pryor, directeur de la section Affaires publiques.
C'est un programme qui vise à encourager les gens à postuler pour nos programmes d'échange. C'est une opportunité d'encourager les gens de faire des activités qui vont améliorer les conditions dans leur communauté, promouvoir le développement durable, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses.
C'est par cette activité communautaire sur le campus universitaire de Lomé qu'a pris fin la semaine du GATS au Togo. Une semaine au cours de laquelle les membres du GATS ont su transmettre des valeurs citoyennes aux jeunes Togolais et susciter en eux une prise de conscience afin qu'ils puissent saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux à l'avenir. Kyle Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Les Haïtiens ont voté dimanche pour élire leur président, des députés et sénateurs sans incident majeur, mais la publication des résultats dans plus d'une semaine pourrait susciter des tensions. En fin de journée dimanche, les autorités électorales n'ont pas caché leur satisfaction devant la bonne tenue des scrutins à travers le pays. 27 candidats sont en liste pour la présidentielle, 25 postes de députés sur 109 sont à pourvoir et 16 sénateurs sur les 30 que compte la Chambre haute. Les résultats officiels du premier tour doivent être rendus publics le 29 décembre. Si aucun candidat à la présidence n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour est prévu le 29 janvier 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un attentat suicide a fait au moins 27 morts et 35 blessés aujourd'hui dans une mosquée chiite de Kaboul, en pleine célébration d'une importante fête religieuse marquant le 40e jour suivant l'Ashura. Il s'agit bien d'une attaque suicide, a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. C'est la troisième fois que les chiites sont visés dans Kaboul depuis l'attentat du 23 juillet contre une manifestation de la minorité Hazara qui avait fait 85 morts et plus de 130 blessés. Cette attaque avait, vous vous en souvenez, été revendiquée par l'État islamique. Le cessez-le-feu au Yémen n'a pas été prolongé à son expiration aujourd'hui en milieu de journée en raison de violations commises par les rebelles chiites houthis, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la coalition arabe intervenant en soutien aux forces pro-gouvernementales. La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales soutenues notamment par l'Arabie saoudite à des rebelles chiites houthis accusés de liens avec l'Iran. Le conflit a commencé à l'été 2014 avec la progression des rebelles vers la capitale Sanaa dont ils se sont emparés et qu'ils contrôlent toujours. Selon l'ONU, la guerre a fait plus de 7000 morts et près de 37000 blessés depuis son intensification avec l'intervention en mars 2015 de la coalition. Le président américain Barack Obama a fait ses adieux à la scène internationale dimanche à Lima en promettant une transition respectueuse mais vigilante avec son successeur Donald Trump, dont l'inexpérience, la personnalité déroutante et les propositions choc suscitent doutes et inquiétudes dans le monde. Le président américain qui cédera à la Maison-Blanche le 20 janvier a dit souhaiter s'inscrire dans la tradition américaine en s'abstenant de critiquer son successeur. Et la Russie va déployer des systèmes de missiles S-400 et des missiles balistiques Iskander dans l'enclave russe de Kaliningrad, rapporte aujourd'hui l'agence de presse RIA qui cite le président de la commission de défense de la Chambre haute du Parlement. Selon Viktor Ozerov, ces déploiements sont la réponse de la Russie à l'installation dans l'est de l'Europe d'un bouclier antimissile américain. Les États-Unis assurent que ce système est destiné à protéger le vieux continent d'une attaque iranienne qui n'est pas dirigée contre la Russie. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisca.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.